France Inter.
C'est un trafic très lucratif, mais moins connu que le trafic de drogue, celui des pesticides. En 10 ans, 8000 tonnes de produits interdits ont été saisies par Europol.
Évidemment, à partir du moment où il y a quelque chose qui est interdit, ça attire les convoitises. Et donc, ça attire aussi des acteurs interlopes qui vont se faire beaucoup d'argent.
Et vous allez l'entendre, nous avons rencontré certains de ces hommes de l'ombre.
J'aurais pas dû faire ces choses-là. Je les ai fait pour mes clients. J'assume ce que j'ai fait complètement. Je l'ai fait aussi pour sauver l'agriculture française, voilà.
Un business qui prospère sur la frustration d'agriculteurs qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas utiliser certains produits.
Et qu'on nous laisse travailler parce que vous ne savez plus comment faire. On a nos terres infestées de champignons, de ci, de là. Mais il ne faut pas croire que c'est Bernadette Soubirous, hein. Mais dans les légumes, c'est très compliqué.
Et ce marché noir, il cible aussi des particuliers.
Je vendais des stylos, des nounours pour enfants, près de 3000 produits. Et puis en 2021, j'ai commercialisé du glyphosate, et ça a marché.
Et derrière tous ces trafics, il y a également un enjeu de santé publique, car ces pesticides interdits, ils sont présents un peu partout autour de nous.
Ce n'est pas une pollution qui est limitée à la proximité des parcelles agricoles. Donc à ce jour, on peut dire que les Français sont tous ou quasiment tous exposés à des substances interdites de pesticides.
Des substances qu'on retrouve dans l'air, dans l'eau et même dans les urines des enfants.
Enfin, c'est pas tolérable. Je vais le dire de façon très triviale, mais j'ai des envies de meurtre en fait, parce que on a les résultats. Qu'est-ce qu'on en fait ? On sait pas. Il y a une impuissance totale.
Et dans le monde impitoyable du trafic de pesticides, le silence est la règle.
Ah bah de toute façon, il faut rester bouche cousue. Si les enquêteurs te posent des questions, tu dis c'est possible, peut-être, et voilà, terminé.
Et nous sommes allés jusqu'en Espagne, au cœur de ce réseau.
Hola, señor.
Bonjour, Vilalta. Monsieur Vilalta.
Es Anne-Laure,
c'est Anne-Laure, la journaliste française. Est-ce qu'on pourrait se parler ou même se voir si vous êtes en Catalogne à Santa Susana?
Alors, qui sont ces intermédiaires et ces trafiquants? Pour Révélation, Anne-Laure Barral et Julie Pietri ont mené l'enquête.
Révélation, le magazine de la cellule Investigation de Radio France, Benoît Colombat.
Et pour commencer, Julie Pietri, vous nous emmenez dans le centre de la France.
On est dans un immense jardin qui ressemble en fait presque à un petit parc avec des chênes, avec des sapins. Et tout au fond, une maison. Et c'est là qu'habite un acheteur de glyphosate qui s'est fait perquisitionner il y a quelques années par des gendarmes parce qu'il n'a pas le droit, en tant que particulier, d'acheter et d'utiliser cet herbicide.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va?
On va se mettre dans la salle à manger, on sera plus à l'aise. Enchanté.
Comment je vous appelle?
Monsieur Glyphosate.
Il préfère en rire, mais qui est-il vraiment, ce monsieur Glyphosate?
Il a 57 ans et il préfère donc ne pas donner son nom. En 2022, il a acheté un bidon de 5 litres de glyphosate, alors qu'il savait très bien qu'il n'en avait pas le droit. Le glyphosate, c'est un produit très souvent retrouvé dans les captages d'eau potable. Et à l'époque, cet homme travaillait comme cadre pour un syndicat des eaux. Voilà ce qui s'est passé lorsque les enquêteurs débarquent chez lui.
Ils me demandent le bidon, je leur donne le bidon, et ben, ils ont constaté que le bidon, effectivement, je l'avais. Je l'avais entamé parce que le week-end juste d'avant, je l'ai traité chez moi, donc pas de chance. Et que voilà, il fallait que je les suive au commissariat, j'ai eu le droit à me mettre en petit slip, et puis être pris en photo sur un mur blanc de tous les côtés. Donc tout ça pour un bidon de glyphosate, qui bien sûr les ont emmenés.
Alors justement, comment vous avez fait pour trouver ce glyphosate qui est interdit aujourd'hui à la vente aux particuliers?
Mais en fait, sur Internet, vous y allez et vous trouvez très très facilement ce produit-là.
Là, vous êtes sur votre téléphone?
Ouais, donc là, j'ai tapé glyphosate. Là, on est chez qui? Là, je pense que c'est des entreprises espagnoles. Toc, toc.
Et celui-là, vous pensez que vous pouvez l'acheter comme ça?
Oh, oui. Livraison gratuite en 24 ou 48 heures. C'est dingue, hein? Il n'y a rien qui nous interdit, qui nous a mis « attention, vous n'avez pas le droit ». Alors je sais, c'est ce qu'on m'a dit les gendarmes, nul ne doit ignorer la loi.
Bah, vous la connaissiez pour le coup?
Oui, bien sûr, je la connaissais, je me suis pas... Voilà, parce que j'en avais besoin. C'est un produit pour moi personnellement que j'utilise dans mes allées ou dans mon jardin potager en fin de saison. Pour détruire toutes les mauvaises herbes, on met un coup de glyphosate partout sur le terrain, on attend une bonne semaine, 15 jours, ça jaunit, on la bourre et le terrain est tout propre. On n'a pas de repousse.
Et vous, éthiquement, ça ne vous pose pas de souci d'utiliser du glyphosate alors que vous travaillez dans un métier dont le but est de préserver la qualité de l'eau ?
Je vous rappelle que le glyphosate n'est pas interdit pour les agriculteurs. Donc on l'utilise toujours. Si c'était vraiment si dangereux que ça, il n'y aurait plus d'agriculteurs, ils seraient tous morts.
Bon, alors le glyphosate est quand même classé depuis 10 ans cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé, mais il reste effectivement l'herbicide le plus vendu au monde. Il est largement autorisé pour les professionnels munis d'un agrément.
Et ce sont donc les particuliers qui n'y ont plus droit.
Oui, depuis 2019, parce que c'est un produit toxique, rappelle l'Office français de la biodiversité, qu'il faut donc savoir manipuler en respectant les dosages. Solène Briand est magistrate, chef du service national d'enquête et de contrôle de l'OFB.
Tous les produits phytopharmaceutiques sont classés dangereux. Quand ils sont utilisés par des professionnels, ils sont utilisés de façon encadrée avec des équipements de protection individuelle, la nécessité d'avoir suivi une formation. Donc les risques pour l'utilisateur sont importants.
Il y a un an, l'OFB a lancé une grande opération de police dans 83 départements, 600 perquisitions chez des acheteurs. Et dans les profils, il y a vraiment de tout. Un membre d'un syndicat des eaux, on l'a vu, mais aussi un agent SNCF, un ambulancier ou le patron d'une PME. Au total, 3000 litres de produits ont été saisis en 2025. Avec ça, on aurait pu traiter l'équivalent de 1500 terrains de football.
Mais ce n'est évidemment qu'une petite partie de ce qui est vendu illégalement sur le net.
Impossible de répondre à tous les signalements que nous recevons, précise l'OFB. D'ailleurs, un exemple récent, selon nos informations, le roi Merlin a dû retirer en urgence des produits qui apparaissaient sur son site. Une situation exceptionnelle, assure l'entreprise.
Et Julie, est-ce qu'on en sait plus sur ceux qui vendent ce glyphosate ?
Oui, il y a eu des arrestations et des condamnations. Un exemple, Idir Gizem, 35 ans, entrepreneur algérien au casier vierge, jusque-là qui vit entre la France et l'Espagne.
Et comment il s'était organisé alors ?
Eh bien, il avait un box de stockage en Espagne et il vendait du glyphosate sur des marques. Marketplace, ce sont ces boutiques en ligne qui sont hébergées par des sites de vente connus comme eBay ou Rakuten. Et là, les clients pouvaient acheter leur bidon de Radical ou de Roundup Ultra Plus. Au total, Idir Gizem a gagné, selon les calculs de la justice, près de 200 000 euros sur ses ventes.
Et vous l'avez interrogé lors de son procès en appel à Orléans.
C'était en novembre dernier. Lui, il ne comprend pas si le glyphosate est considéré comme dangereux. Alors pourquoi l'autoriser pour les uns et pas pour les autres ?
Je trouve que c'est pas clair du tout, voilà. Et les cancérogènes, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. On arrête. Il est où Bayer ? C'est lui le fabricant, c'est lui qui fabrique le glyphosate.
Ce qu'on vous reproche à vous, c'est d'avoir vendu à des particuliers.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je préfère le vendre aux particuliers. C'est quoi le particulier ? Il va le mettre à son jardin. C'est l'injustice qui m'étonne. Aujourd'hui, les oiseaux, les animaux, elles ont la justice. Monsieur Idir Gizem, il n'a pas de justice.
Cet homme est quand même considéré comme l'un des plus gros fournisseurs de pesticides interdits aux particuliers en France. Il a été condamné en appel le mois dernier à 2 ans de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Et il envisage un pourvoi en cassation.
Et dans cette chaîne d'approvisionnement des pesticides, il y a aussi des intermédiaires.
Oui, comme Benoît Labruni, crâne rasé, bronzage, cet ancien coach sportif vit en Thaïlande. Les produits, lui, il ne les a jamais vus ou touchés. C'est ce qu'on appelle le dropshipping sur eBay ou Le Bon Coin. Il les met juste en vente et à chaque transaction, il touche une commission, plus de 40 000 euros empochés. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions au micro, mais nous avons fait lire un extrait de ses propos tenus devant la cour d'appel d'Orléans en novembre dernier.
Je vendais des stylos, des nounours pour enfants, près de 3000 produits. Et puis en 2021, j'ai commercialisé du glyphosate et ça a marché. Je ne me suis pas levé un matin en me disant que j'allais vendre un produit illicite qui détruit les gens et la planète. Faire quelque chose d'illégal, ce n'est pas dans ma nature. C'est pathétique, je ne sais pas quoi vous dire.
Benoît Labruni assure qu'il était en état de survie financière à cette époque.
Ce qui n'a pas empêché le tribunal de le condamner.
Oui, à 1 an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende, des sanctions financières globalement trop faibles compte tenu de l'argent encaissé par ces deux hommes, estime Pia Savard, juriste à France Nature Environnement et partie civile dans ses procès.
Ces comportements-là, ils en encouragent d'autres. Ils permettent aussi de dire, on vend librement sur Le Bon Coin. Pourquoi est-ce que ce serait un problème ? Il y a une perception par les acheteurs et par les vendeurs et par la totalité de la société que c'est des trafics qui sont moins graves. En fait, c'est des trafics qui sont extrêmement lucratifs et peu sanctionnés versus les dommages considérables qui sont causés.
Et ce que vous avez aussi constaté, Julie, c'est que certains vendeurs passent entre les mailles du filet.
Oui, parce qu'un autre acteur apparaît dans le dossier. Son surnom, c'est le Chinois, un homme basé en Espagne et qui, selon les enquêteurs, aurait vendu bien plus de glyphosate que les deux vendeurs que nous venons d'évoquer.
Et cet homme, le Chinois, il n'a donc pas été poursuivi en France ?
Non. Écoutez, cette enquêtrice qui n'a pas souhaité que son nom soit mentionné, nous avons fait lire son témoignage.
Lui, c'était le plus important. La différence avec les autres, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds en France. L'écarter, ça a été un choix des magistrats. À un moment donné, il faut couper les branches dans les dossiers pour pouvoir avancer, essayer de les clôturer. Ça veut dire que potentiellement, il exerce encore. Mais nous avons transmis tous les éléments à nos partenaires européens.
Et selon nos informations, une enquête a été ouverte en Espagne pour vente illégale à des particuliers et délit contre la santé publique.
Alors dans ces affaires, on l'a compris, des particuliers utilisaient un pesticide auquel ils n'avaient pas droit. Et ça, je me tourne maintenant vers vous, Anne Lambaral, ça arrive aussi dans le milieu agricole.
Oui, parce que les pesticides sont des substances dangereuses et donc très encadrées. Quand l'agence sanitaire française, l'ANSES, autorise un produit, elle donne des règles d'utilisation bien précises, comme l'explique Bertrand Biteau, responsable de la direction de ces autorisations à l'ANSES.
Ce n'est pas ad vitam aeternam, ce n'est pas sur toutes les cultures, c'est vraiment très encadré. Elle est faite pour un usage particulier, c'est-à-dire on va dire bah, ça va être sur les tomates ou ça va être sur du blé. Et donc ça va être avec telle quantité, à telle période. On ne peut pas utiliser un produit autorisé pour quelque chose, pour autre chose.
Donc sur le papier, tout ça semble très réglementé.
Oui, et pourtant, écoutez ce que nous a raconté Philippe, ancien ouvrier agricole qui a quitté le maraîchage et l'arboriculture il y a quelques années.
Le maître de culture nous a proposé des produits qui n'étaient pas pour cette culture-là qu'on faisait. C'était un essai, mais en mode sous-marin, quoi, entre guillemets. Je me suis rendu compte qu'il y a eu plein de moments où on a eu des produits qui ont été utilisés pour certaines cultures que ça ne correspondait pas. Bien sûr, ça a été super efficace. C'est des choses qui étaient prévues sur des légumes et qui ont été mis dans l'arboriculture.
Ces pesticides que Philippe a utilisés devaient donc être répandus par terre sur des légumes et pas en l'air sur des arbres fruitiers. Parce que les tests d'évaluation d'un produit qui s'envole, eh bien ce ne sont pas les mêmes que ceux d'une substance censée rester au sol.
Et des exemples d'usage détourné de pesticides, Anne-Laure, vous en avez aussi trouvé chez des agriculteurs bio.
Oui, c'est ce que nous a expliqué Jean-Luc Jutier, un exploitant à la retraite. Lui, il s'est fait sanctionner en 2010 pour utilisation d'un pesticide autorisé en bio sur les légumes, mais pas sur les fruits.
J'ai été blâmé, c'est-à-dire que j'ai reçu un courrier, donc comme quoi j'étais passible de je ne sais pas combien de prisons et je ne sais pas combien d'amendes, et qu'il fallait absolument que je détruise ces produits-là et que j'apporte la preuve que je les avais détruits. On avait un groupe de développement bio sur le secteur, on était tous dans le même cas, parce qu'on n'avait que ça. C'était quand même un produit dangereux, je veux dire, je ne l'aurais pas mis dans mon petit déjeuner.
Et est-ce que ces mauvaises pratiques, elles sont vraiment sanctionnées ?
Alors, difficile à dire. Déjà, les directions régionales agricoles font en moyenne un contrôle tous les 5 ans dans les exploitations. Et on constate environ 15% d'anomalies sans qu'on ait toujours le détail. En tout cas, un conseiller agricole a encore vu ce genre de problème l'an dernier dans des coopératives qui vendent des pesticides à Cognac et à Bordeaux. Nous avons fait lire ses propos.
Quand un agriculteur se plaint que ses vignes ne sont pas propres, certains conseillers de coopérative lui disaient d'utiliser un herbicide pour colza, le Folie-R. Et comme l'agriculteur faisait aussi du colza en plus de la vigne, cela ne posait pas de problème. Mais maintenant, les négociants vendent cet herbicide aussi à ceux qui n'ont que des vignes. Donc là, ça commence franchement à se voir.
Et nous avons demandé à la Direction régionale de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine de nous dire si des sanctions avaient été prises sur ces mésusages, mais elle n'a pas été en mesure de nous confirmer que des contrôles ont bien été faits sur ce produit en particulier. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que certains agriculteurs ont moins de produits autorisés qu'il y a 15 ans, et donc il y a la tentation pour eux, parfois, d'aller voir ailleurs.
Et d'autant que les règles d'utilisation, les interdictions varient beaucoup entre les agriculteurs des différents pays.
Oui, comme avec ceux d'Amérique du Sud, par exemple. C'est pour cela que les paysans français ont beaucoup parlé de concurrence déloyale dans les manifestations de cet hiver, dans lesquelles Clément Lajoux, représentant des jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône, s'est fortement mobilisé.
On est d'accord dans le fond où ces produits ne doivent pas être utilisés. Le problème étant, c'est qu'il y a une concurrence déloyale sur les marchés nationaux et internationaux, entre autres l'accord Mercosur. Il faut que sur nos étalages, les produits français soient mieux valorisés. Tant qu'on aura des produits étrangers avec des systèmes de production à moindre coût, les gens ils vont se perdre, ils vont chercher leur portefeuille et acheter des produits pas chers.
et qui sont donc traités avec des pesticides que l'on s'interdit en France. Mais cette concurrence, Benoît, on la retrouve aussi au sein de l'Union européenne, comme avec l'Espagne, ce qui attire parfois les convoitises et fait même complètement déraper certains professionnels.
Des maraîchers à la barre.
Dans une affaire bien embarrassante pour l'image du monde agricole, 6 producteurs du sud-est de la France ainsi qu'un commercial à la retraite comparaissent à Marseille pour trafic de pesticides interdits.
Voilà un extrait du journal de 7h de France Inter, c'était le 12 janvier dernier. Yann Lorbaral, vous avez suivi ce procès à Marseille.
Oui, un procès où ces maraîchers sont soupçonnés d'avoir acheté à un fournisseur espagnol des pesticides interdits en France. Parmi eux, il y a Thierry Boyer, ce producteur de fruits et légumes des Bouches-du-Rhône a accepté de nous ouvrir les portes de son local à Phyto, là où les gendarmes l'ont perquisitionné en juin 2022.
Voilà, là, ça c'est le local Phyto avec les aérations sur le bord, tu vois que c'est des briques, tout l'entourage, la porte en fer avec le cadenas.
Il y a marqué quoi ?
Attention, piège danger, produit Phyto. Et toute la législation entrée interdite aux personnes non autorisées, tous les tralala et machin. Ah ben, c'est pas un jardin d'enfants. Hein. Et là, après, tu as des étagères, voilà, où c'est classé selon les produits, par la poudre en haut, le liquide en bas, un côté insecticide, un côté fongicide, la poubelle pour les bidons, tu vois, après utilisation et compagnie, et compagnie.
C'est, voilà. C'est là que les gendarmes, ils ont passé le plus de temps.
Ah ben là, ils ont répertorié, et puis les papiers, ordinateurs et tout le tralala.
Et lors de cette perquisition, les gendarmes ont également retrouvé des bidons de désherbants espagnols interdits en France.
Quand on a été convoqué à Marseille, je me suis justifié que c'est mon voisin et que je ne nommerai pas, parce que je ne suis pas un mouchard, un collabo. Et il m'a donné son stock de phyto quand il a arrêté. Et dedans, il y a eu ces deux bidons, voilà. Et quand il y a eu la visite, on leur a bien fait remarquer que les bidons étaient fermés et avec la languette. Ils n'avaient pas été utilisés parce qu'on s'était rendu compte que dans le lot, il y avait ces deux bidons espagnols.
Et donc la ligne de défense de ce producteur de fruits et légumes, c'est de dire qu'il n'aurait fait qu'entreposer les bidons d'un collègue.
Et au procès, les autres maraîchers présents ont tous dit la même chose. Nous avons bien détenu ces produits, mais non, on ne les a pas utilisés. À commencer par le plus gros des producteurs, Didier Corny, numéro 1 de la salade en France. 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, fournisseur de la marque Florette depuis 35 ans et aussi des magasins Leclerc ou encore Grand Frais.
Je n'ai pas commis de faute de dépendage de produits illicites sur mes cultures parce que ça serait une folie, ça me tirerait une balle dans le pied si je faisais ça avec la clientèle que j'ai. Ça serait du suicide, tout simplement du suicide.
Je précise que Didier Corny a déjà été condamné pour des infractions environnementales comme brûler des bâches en plastique. Et surtout, les enquêteurs ont trouvé une note manuscrite et une facture qui le mettent en cause pour l'achat de pesticides interdits à une société espagnole.
Et cette note, c'est un point important, elle a été découverte chez un homme clé de ce procès, un commercial soupçonné d'avoir importé ces pesticides interdits depuis l'Espagne.
Oui, il s'agit d'Alain Hébrard, un retraité plutôt actif, hein, de 78 ans. Il nous a reçus chez lui, dans sa maison dans le Gard, un mât provençal avec un nom qu'il affectionne, le mât Don Quichotte. Piscine, chevaux, olivier, lui qui a vendu des engrais toute sa vie à plusieurs centaines d'exploitants français, mais aussi espagnols et marocains, affirme ne rien connaître aux pesticides et simplement avoir voulu rendre service.
C'est les clients qui m'ont demandé, toi qui viens d'Espagne, qui vas au Maroc, que tu peux avoir tel et tel produit. Moi je me suis renseigné, hein. Moi, je n'ai pas initié ce marché parallèle. J'ai répondu à la demande de gens désespérés. J'assume ce que j'ai fait complètement. Je les ai fait pour mes clients, aussi pour sauver l'agriculture française.
Alors quand même, hein, les notes d'Alain Hébrard montrent qu'il touche des commissions qui peuvent aller jusqu'à 25 000 euros parfois. Lui dit que ce n'était que dépenses bêtes, qui ne prouve pas que l'affaire s'est conclue ensuite. Le procureur a requis la peine contre lui la plus lourde, celle de 10 mois de prison ferme.
Oui, parce que il faut le préciser, Julie Pietri, Alain Hébrard, il a déjà été condamné pour une affaire similaire en Normandie.
Oui, celle dite des carottes de créance, des carottes label rouge depuis les années 60, gage de qualité supérieure, donc donc petit goût doux et sucré. C'est ce qu'on peut lire sur le site du ministère de l'Agriculture. Elles sont cultivées sur des terrains sableux et c'est là que ça se complique.
Pourquoi ?
Parce que localement, un ver, un parasite, s'attaque à la carotte. Pendant des années, un pesticide a servi à l'éradiquer, le dichloropropène, interdit dès 2007 en Europe. La France a joué les prolongations pour soutenir ses producteurs de carottes, mais la dérogation a pris fin en 2018 et c'est là que le trafic a débuté, explique l'ancien procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe.
On n'était pas sur un oubli où on continue d'utiliser peut-être des produits qui à un moment donné étaient autorisés et puis on conserve dans son local phyto quelques bidons qu'on va terminer. On était là vraiment dans la continuation de pratiques avec le maintien d'un approvisionnement, clairement pour le ressort de la juridiction de Coutances et même à l'échelle de la Normandie, c'était inédit.
De gros moyens d'investigation sont déployés, contrôle des fermes, épluchage des comptes et rapidement, les enquêteurs décident de mettre les agriculteurs sur écoute. Voilà un de leurs échanges que nous avons fait lire.
Ah bah de toute façon, il faut rester bouche cousue. Si les enquêteurs te posent des questions, tu dis c'est possible, peut-être, et voilà, terminé. Moi, ne t'inquiète pas, c'est ce que je vais faire.
Ils vont essayer de nous tirer les vers du nez.
Oh bah, ils peuvent essayer.
Ces écoutes ont été précieuses pour l'équipe du major Christophe Aumont qui commande la brigade de recherche de Coutances dans la Manche.
C'est des gens qui ont tous grandi par ici, qui exercent le même métier. Ça nous a permis de savoir que les gens communiquaient beaucoup entre eux. Donc on a quand même pu identifier dans le sud de la France, au niveau de Perpignan, une zone où était stockée une cargaison qui était en attente de livraison vers la Normandie. 22 ou 23 tonnes de produits phyto.
Les gendarmes ont saisi cette cargaison, mais ils estiment qu'une centaine de tonnes de dichloropropène a quand même été injectée illégalement dans le sol.
Les 12 agriculteurs poursuivis et condamnés, eux, disent qu'ils n'avaient pas le choix.
En tout cas, d'autres producteurs de carottes ont fait autrement, ont respecté les règles. La Confédération paysanne s'est donc portée partie civile au procès pour les défendre. Annick Briand, maraîchère en agriculture biologique, leur a servi de porte-voix.
J'étais pas très à l'aise parce que ils se sont pas privés de me dire que j'étais peut-être pas forcément à la bonne place et qu'en tant qu'agricultrice et en tant que syndicat agricole, on aurait dû être plutôt aux côtés des maraîchers et en soutien donc à la profession. Enfin, moi, en tout cas, en tant que maraîchère, je pouvais comprendre que modifier un système, c'est complexe. On n'a plus l'usage de cette chimie et faire autrement, c'est effectivement difficile, mais pas impossible.
Pas impossible de faire sans dichloropropène et c'est ce que sont bien obligés de faire les maraîchers condamnés dans cette affaire aujourd'hui.
Nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Jauré dans son exploitation normande. Lui, il était à l'époque président du syndicat des carottes de créance et il a écopé d'une amende. Les carottes qu'il met en sachet ce jour-là devant nous ne sont pas déformées, ne sont pas abîmées par le ver des sables. Alors comment a-t-il fait ? Puisque ce ver se développe grâce aux carottes, il en a fait moins de carottes pour assainir ses terres. Il a alterné ses plantations avec d'autres cultures.
Aujourd'hui, vous voyez toujours des carottes sur l'étalage. Il existe encore des carottes de sable. Donc on peut se dire, pourquoi ils ont pleuré ? Ça marche quand même. On en a. Ce qu'on ne lit pas, c'est tout ce qu'il faut mettre en amont, tous les risques qu'il faut prendre pour avoir ces carottes et toujours être compétitif sur le marché.
Se passer du dichloropropène a fait grimper, assure-t-il, ses coûts de production. En tout cas, selon lui, aucun producteur condamné n'a mis la clé sous la porte.
Et Alain Hébrard, ce commercial qu'on évoquait tout à l'heure, il a fait quoi dans cette affaire ?
Il a fait venir les produits d'Espagne et il a été condamné pour ça définitivement par la Cour de cassation à 6 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Mais il pense toujours qu'il ne méritait pas une telle sanction.
Pour les carottes, il n'avait plus du tout de solution. Le premier que j'ai livré, je pensais livrer qu'un type, voilà. Et après, il a parlé à tout le monde, donc voilà. Pourquoi importe-t-on des carottes qui sont traitées au dichloropropène en Espagne ? Ça me semble tellement logique, j'étais certain de gagner, moi. Les règles sont les règles, hein, ok, j'ai enfreint ces règles, c'est vrai, ok. La loi, je pense que quand elle est mal faite, il faut la modifier.
Alain Hébrard a dû payer aussi 3400 euros de dommages et intérêts à des associations de défense de l'environnement. Et ce qui frappe Alice Béral, juriste à France Nature Environnement Normandie, c'est le double visage du personnage.
Il ne donne pas du tout cette image du businessman finalement qui apparaissait dans le dossier, mais plutôt comme un petit papy un peu décontenancé de la situation, qui avait du mal à payer parce que, vous comprenez, cette affaire m'a ruiné. Et par ailleurs, voilà, je vis dans mon village, moi je vis isolé, il faut que je me rende à la banque pour faire des virements, c'est compliqué, donc je ne peux que faire des chèques, et est-ce qu'on peut étaler les paiements ? Ce qu'on a naïvement accepté. Et je dis naïvement parce qu'effectivement, on s'est rendu compte plus tard qu'il n'était pas tant sur la paille que ça, visiblement.
Parce que l'enquête marseillaise montre qu'Alain Hébrard n'a aucun problème pour livrer des produits lui-même et se déplacer en Espagne ou au Maroc. Il est également à la tête de plusieurs sociétés, notamment une dans un paradis fiscal, l'État américain du Delaware. Je ne sais même pas où c'est ce qu'il a dit à l'audience à Marseille.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, nous allons prendre la route de l'Espagne sur la piste de ces trafiquants qui alimentent le marché français. Orange County, le dernier titre du groupe britannique Gorillaz, en attendant leur nouvel album The Mountain à la fin du mois.
France Inter. Révélation. Benoît Colomba.
Et retour à notre enquête sur le trafic de pesticides interdits. On vous retrouve, Anne-Laure Barral, avec Julie Pietri. Vous avez tenté de retrouver l'un des principaux fournisseurs espagnols de pesticides.
Oui, sa société s'appelle Agronaki. Son nom apparaît dans plusieurs affaires de trafic de pesticides en France et pourtant il n'a jamais été inquiété. Nous l'avons contacté, sans réponse de sa part, nous nous sommes donc rendus en Espagne, à l'adresse indiquée sur ses factures, à Santa Susana, sur la Costa Brava, en Catalogne. On s'attendait à tomber sur un hangar où seraient stockés des produits, mais pas du tout.
Là, on est sur une route qui monte, c'est quand même assez étonnant, quoi. Ça fait très...
Quartier résidentiel.
Exactement. Ouais.
Regarde, à gauche, la mer. Avec des très belles maisons, non ?
Très belles maisons. Ça ressemble pas du tout à une zone d'entrepôt de magasin. De toute façon, ça a tellement zigzagué dans des routes tellement étroites que je vois pas très bien comment des camions peuvent passer par là, honnêtement.
C'est des camionnettes, quand même.
Des camionnettes, ouais. Ah oui, des camionnettes. C'est le numéro 36. 36. 8. Oh ! C'est une adresse qui n'existe pas ? Y a rien ?
Voilà. L'adresse qui est donnée dans toutes les informations qu'on a pu voir dans les dossiers judiciaires sur Agronaki, eh ben c'est, y a pas de maison, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'Agronaki ici.
On va peut-être essayer de l'appeler, non ? Une dernière fois, pour l'instant, il n'a pas répondu, mais...
Hola, señor.
Bonjour, Villalta. Monsieur Villalta.
Buenos días. Es Anne-Laure,
c'est Anne-Laure, la journaliste française. Est-ce qu'on pourrait se parler ou même se voir si vous êtes en Catalogne à Santa Susana?
Non, ça ne vaut pas la peine, parce que je vais dire du mal des politiques et d'administration catalane, espagnole, etc. Je ne répondrai à aucune de vos questions.
Ah oui, donc visiblement, il n'a pas très envie de vous voir, ce monsieur, mais vous ne vous êtes pas arrêté là.
Non, parce que le patron d'Agronaki, c'est un personnage assez trouble, inscrit au registre du commerce de Barcelone pour des activités de céréales et de semences, mais pas de boutique, pas de hangar, comme nous l'a expliqué l'un de ses clients sur place, Josep, qui a une petite ferme vers Gérone.
Il doit avoir entre 60 et 70 ans. Il doit être sur le point de prendre sa retraite. Je crois qu'il ne travaille pas autant qu'avant. Il a ralenti un peu. Je le connais depuis des années. On a beaucoup travaillé avec lui. C'est un mec qui a de l'expérience. Il sait très bien de quoi il parle. Bien sûr, il sait vendre, c'est un commercial. Mais quand tu as des problèmes, il sait te faire un diagnostic. Il n'a pas de boutique, on échangeait par WhatsApp ou par téléphone. Et il livrait à domicile, et voilà. Je sais qu'il vend beaucoup en France et qu'il a eu des problèmes à cause d'herbicides interdits. Mais c'était il y a un paquet d'années, c'est prescrit maintenant. En tout cas, quand on a travaillé avec lui, tout était légal.
Et à la fin de cette conversation, Josep nous a quand même confié qu'il avait prévenu le patron d'Agronaki qu'il allait nous parler.
Bon, et Anne-Laure, vous avez cherché à en savoir plus sur ses antécédents judiciaires.
Oui, la justice espagnole n'a pas souhaité nous transmettre des informations sur son casier ou sur d'éventuelles condamnations pour trafic de pesticides. En revanche, quand les autorités françaises ont demandé aux Espagnols des informations sur cet homme, elles ont reçu ces quelques mots connus pour trafic de stupéfiants en 2011 et 2014.
Ah oui, on parle de trafic de stupéfiants.
Alors, sans se prononcer sur ce cas particulier, le lieutenant Carlos Munoz Carpena de la CEPRONA, la police de l'environnement côté espagnol, nous explique en tout cas qu'il n'est pas rare de voir ces deux trafics, pesticides et drogues, se mêler.
Si tu as déjà une logistique pour acheminer de la drogue, tu peux acheminer des produits phytosanitaires en faisant quelques changements. C'est avantageux. Mais ce qu'on a également détecté, ce sont des entreprises qui ont un volet légal, mais qui commettent aussi des délits en profitant de tout le cadre de ces entreprises. Et ça, c'est une partie difficile et sophistiquée, parce qu'il faut savoir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas aussi simple que pour le trafic de drogue où vous savez que tout est illégal.
Et vous avez également rencontré un concurrent d'Agronaki qui, lui, a été sanctionné pour trafic de pesticides.
Oui, Daniel Cazorla. Il a un entrepôt, lui, de vente de pesticides près de Figueras, juste de l'autre côté de la frontière avec la France. Et il a appris à ses dépens, il y a 10 ans, qu'il ne pouvait pas fournir à des agriculteurs français certains produits. Il a même été condamné à 100 000 euros d'amende. Et aujourd'hui, il a compris la leçon.
Si quelqu'un nous demande un produit interdit, on l'envoie chez qui cherchait chez quelqu'un d'autre. Quelquefois, on reçoit quelques mails ou quelques personnes, mais nous, on se limite à appliquer la loi pour ne pas perdre notre agrément de vente.
Oui, on comprend bien que quelques professionnels français tentent toujours d'avoir des produits interdits en Espagne. Mais alors, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette triche sur les pesticides ?
Alors, chaque année, une vingtaine d'enquêtes sur les pesticides interdits sont menées par les services spécialisés français. Et selon nos informations, 8000 tonnes de pesticides interdits ont pu être saisies en 10 ans sur le sol européen grâce à une collaboration internationale encadrée par Europol.
Révélation sur France Inter.
Alors maintenant qu'on a vu comment s'organiser une partie de ces réseaux entre la France et l'Espagne, voyons avec vous, Julie Pietri, l'impact de ces pesticides interdits dans notre environnement. Et d'abord, est-ce qu'on arrive à le mesurer cet impact ?
Oui, en partie dans l'air par exemple. L'observatoire de surveillance Atmo détecte régulièrement 6 pesticides interdits. Certains apparaissent seulement à certaines saisons et dans certaines régions, mais d'autres, comme le lindane, sont retrouvés systématiquement. Cet insecticide interdit depuis longtemps est en fait très persistant dans l'environnement. Charlotte Lepitre est la déléguée générale d'Atmo France.
Il faut prendre en considération que ce n'est pas au moment de l'interdiction d'une substance qu'on va arrêter de la retrouver dans l'environnement. Il va y avoir des pratiques, mais il va y avoir aussi la nature même de la molécule qui fait qu'on peut les retrouver des décennies après leur interdiction. Ce n'est pas une pollution qui est limitée à la proximité des parcelles agricoles. Donc à ce jour, on peut dire que les Français sont tous ou quasiment tous exposés à des substances interdites de pesticides.
Dit comme ça, c'est un constat qui est quand même assez inquiétant.
Et ce que nous avons appris, c'est qu'Atmo va dans quelques jours mettre en ligne une carte interactive pour permettre à chacun de mesurer la pollution aux pesticides dans sa région. Atmo veut ajouter des capteurs, tester plus de substances avec cette idée que ce qu'on ne cherche pas, eh bien on ne le trouve pas.
Et aujourd'hui, on cherche de plus en plus et il y a certains résultats qui posent de vraies questions.
Oui, dans l'agglomération de La Rochelle, par exemple, une zone de production intensive de céréales. Là, des parents inquiets face au sur-risque de cancer chez les enfants d'une petite commune, Saint-Rogatien, ont cherché des réponses. Ils ont fait tester les urines et les cheveux de 72 enfants du secteur en 2024 et ils ont retrouvé, entre autres, des pesticides interdits. Ce qui met en colère Christophe Guillard, le père d'une des jeunes filles testées.
Bah, on a les résultats. Qu'est-ce qu'on en fait ? On ne sait pas. Je vais le dire de façon très triviale, mais j'ai des envies de meurtre, en fait, parce que c'est pas tolérable. Je considère qu'on est dans un pays qui protège ses intérêts économiques. Voilà. Donc, tout ça engendre une forme de colère et voire une forme de défiance.
Et cette défiance, Julie, elle est notamment alimentée par le débat autour d'une substance bien précise.
C'est l'acétamipride, ce néonicotinoïde interdit depuis 2020 et dont la réautorisation est poussée encore aujourd'hui par le sénateur Laurent Duplomb. Cet acétamipride a été retrouvé dans les urines de 11 enfants, ce qui indique une exposition maximum 48 heures avant, explique la toxicologue Laurence Huc, qui ne s'attendait pas du tout à ce résultat.
Les enfants qui vivent le plus près de zones agricoles avaient des niveaux très élevés d'acétamipride. J'ai été surprise et embêtée, oui. On est arrivé à maintenir l'hypothèse que cette imprégnation était due à un usage récent à des fins agricoles.
Parce que les autres hypothèses ont été écartées une à une, dit-elle. Par exemple, l'acétamipride est encore autorisé dans certains produits domestiques, comme les antifourmis. Mais les familles n'en utilisaient pas pour la plupart au moment des tests. Autre piste, l'alimentation via des produits importés et donc traités à l'acétamipride. Mais les enfants testés positifs ne mangeaient pas tous au même endroit.
Et est-ce que ce produit si décrié, on en trouve la trace dans les exploitations agricoles de Charente-Maritime ?
En tout cas, il n'a pas été détecté lors des contrôles habituels des services de l'État, selon le préfet de Charente-Maritime. En revanche, nous avons découvert des chiffres intéressants. Les ventes d'acétamipride ont plus que doublé dans le département les années précédant l'interdiction. Moins de 36 kilos vendus en 2013 contre 85 kilos en 2018, la date limite pour les achats.
Mais est-ce que ça veut dire que les agriculteurs ont fait des stocks pour pouvoir l'utiliser après son interdiction ?
C'est vrai que ça pose question. Pour le président de la Chambre d'agriculture territoriale de Charente-Maritime, Cédric Trancard, la réponse et non. Les stocks pouvaient être utilisés jusqu'en 2020 sur plusieurs cultures du département, mais ça n'a pas été le cas après, dit-il.
On pouvait le trouver sur colza, quelques plantes légumières, choux, pommes de terre, et ensuite sur noisettes. Effectivement, on aurait pu le retrouver jusqu'en 2020. On a cherché, effectivement, on a cherché parce qu'on s'est senti incriminé. On a fait nos recherches et aujourd'hui, non, il n'y a pas eu d'utilisation agricole.
Et dans cette affaire, Julie Pietri, vous avez découvert qu'une plainte a été déposée.
Oui, une association, Nature Environnement 17, a vu dans ce combat des parents, dans les prélèvements qu'ils ont effectués, une base précieuse pour une action en justice. Marie Baumard est juriste pour l'association.
Ce que ça donne, c'est de la matière pour enquêter. Nous, on a déposé plainte contre X pour mise sur le marché et utilisation de produits phytosanitaires interdits, qui est donc l'appellation de l'infraction liée au trafic de pesticides. Donc on va voir ce qui va se passer à la suite de cette plainte.
On attend donc de voir si des investigations vont être menées. Et ce qu'il faut dire aussi, Anne-Laure Barral, je me tourne cette fois vers vous, c'est que ces pesticides qu'on interdit aux agriculteurs, eh bien la France en fabrique encore sur son propre sol pour les exporter.
Oui, selon le rapport de septembre dernier de l'ONG Public Eye, la France en a même produit encore 6600 tonnes en 2024. D'ailleurs, en juin dernier, les militants des faucheurs volontaires ont trouvé ce type de produit quand ils sont entrés sur le site de l'entreprise chimique BASF à Genève dans le Rhône. Jean-Luc Jutier de la Confédération Paysanne a participé à cette action.
On prend des cisailles, on coupe le grillage. Donc on rentre, on essaye de trouver une porte ouverte et puis on pénètre dans les locaux le plus vite possible. On a des listes de produits interdits et le plus vite possible, on essaye de photographier et de voir tout ce qu'on a sous la main. Et à ce moment-là, toutes les sirènes se mettent à sonner. Les salariés sont obligés de sortir, mais ils nous poussent en ressortant. C'est un peu physique hein, quand même.
Et selon les militants, BASF ne respectait pas la loi française qui demande de ne plus produire chez nous pour les exporter des pesticides dangereux. D'ailleurs, les services de l'État ont ordonné la destruction de 40 tonnes de Fastac, un produit agricole interdit dans toute l'Europe, et même d'arrêter sa production, ce que BASF a fait.
Ce qui n'empêche pas l'entreprise de contester cette injonction de l'État.
Elle estime qu'elle n'avait pas à détruire son stock de Fastac parce qu'il n'est pas dangereux pour la santé et l'environnement. Mais selon une source au ministère de l'Environnement, ce pesticide a des effets sur les pollinisateurs. En attendant, l'association Alerte Planète vient de porter plainte auprès du procureur de Lyon contre BASF pour production de pesticides interdits.
Merci Anne-Laure Barral pour cette enquête réalisée avec Julie Pietri que vous pouvez retrouver sur notre site et sur l'appli Radio France avec également une vidéo signée Nicolas De Witt de la cellule investigation de Radio France où on vous retrouve notamment sur la route de l'Espagne. Et je vous rappelle que si vous avez des informations à nous communiquer, vous pouvez le faire à cette adresse mail sécurisée alerte.radiofrance.fr. Révélation, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Titouan Labarre. Je vous retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Révélation. We'll be right back.